En décembre dernier, c'est 30 000 par mois qu'on faisait. Puis ce mois-ci, on devrait dépasser le 200 000. Puis tout ça, c'était pendant la pandémie.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 51e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Lors du dernier épisode d'Hypercroissance, j'avais eu la chance de recevoir Sina Mobasser qui nous racontait comment il avait réussi au début de la pandémie à lever une ronde de financement de 10 millions de dollars pour son organisation. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on continue sur cette lancée. Mathieu Plante, cofondateur et président de la plateforme de mise en relation B2B Quotes, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la croissance quasiment hallucinante de son entreprise durant les 10 derniers mois. En passant de 30 000 $ de revenus mensuels en janvier 2020 à maintenant plus de 200 000 $ de revenus mensuels en novembre de la même année, Mathieu nous raconte les défis que cette croissance a amenés pour son équipe. On discute également du travail de recherche d'investisseurs qui est un travail de longue haleine, spécifiquement quand on ne peut pas rencontrer des investisseurs en face à face. Sans plus attendre, ma discussion avec Mathieu Plante. Mathieu Plante, tu es président et cofondateur de la plateforme B2B Quotes, un marketplace qui met en relation les agences de marketing aux entreprises qui cherchent des nouveaux fournisseurs. Tu as fondé l'entreprise en 2017 et depuis le début de l'année, vous vivez une croissance hallucinante qui augmente de 20% mois après mois. Vous êtes d'ailleurs rendu une vingtaine d'employés comparé à 7 en début d'année. Mathieu Plante, merci beaucoup d'être sur Hypercroissance aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Salut Antoine.
Mathieu, je l'ai dit en intro, l'entreprise a été fondée en 2017. Peux-tu nous dire un peu les raisons là, qui t'ont poussé à lancer B2B Quotes il y a de ça 3 ans maintenant?
En fait, il y a 2 raisons. J'ai passé 2 ans de ma vie dans une agence web qui aidait les petites moyennes entreprises à générer plus de clients. Puis près de 50% de nos clients partaient avant la fin de l'année quand on les signait. Puis c'était un chiffre qui était assez aberrant. Ensuite de ça, on allait à des conventions de Google, des choses comme ça. Puis le 50%, c'était accepté pour les autres agences. C'était comme, fait que juste on signe plus de clients, puis il y a 50% qui reste, puis c'est correct. Puis si on prend que il y a 35 milliards en Amérique du Nord qui est investi en web marketing, puis c'est un chiffre qui grossit, ben le calcul de 50% de ça, c'est le nombre d'argent qui est jeté aux poubelles puis qui est pas efficace. Je me suis dit, comment est-ce que je peux avoir de l'impact là-dedans pour amener ce chiffre-là de 50% le plus proche de zéro possible? Puis de l'autre côté, je suis un gars qui a eu plusieurs entreprises. B2B, c'est ma 4-5e entreprise. Puis c'est tellement difficile de trouver un bon partenaire. Si on va sur Google, il y a 3000 résultats. Ensuite de ça, c'est pas parce que c'est les premiers puis qui payent plus sur Google qui sont nécessairement les meilleurs pour toi, selon ton industrie, selon ton budget. Mais comme par magie, à toutes les fois que tu vas parler à quelqu'un, il va tout le temps te dire que c'est les meilleurs pour toi. Fait que c'est un peu de démocratiser ça. Puis pour l'avoir vécu des deux côtés, c'est ça.
Intéressant. Puis là, bon, nous on se connaît, fait que je connais un petit peu l'histoire, les partenaires, tout ça, mais si je me trompe pas, tes anciennes entreprises, tes premiers projets en affaires, t'avais Michel qui était proche de toi, tout ça, puis Michel, c'est un petit peu avec lui que vous avez lancé cette organisation-là. C'est là que la genèse a été construite.
Ouais, exactement. En fait, plus que Michel, on est peut-être le tiers qu'on s'est tous connus dans un projet qui s'appelait Qualité étudiant pendant qu'on était au cégep à l'université. Donc, on avait des franchises de peinture, de lavage de vitres. Puis, on a connu chacun de nous un certain succès là-dedans. On a eu la chance après ça de coacher des dizaines, des vingtaines de franchisés pour les aider avec les rouages de leur entreprise. Que ce soit comptabilité, aller chercher des clients, produire les contrats, ces choses-là. Après ça, moi puis Michel, on s'est dit, on est tellement bon, on va se partir à une agence de voyage ensemble qui s'appelait Go Epic, qu'on a fait 100 personnes analyser une moitié d'avion pour aller à Cuba. On a fait 50 personnes à Tomorrowland en Belgique. On a fait des trucs pas possibles, mais c'est vraiment été un epic fail. C'est-à-dire que j'ai perdu 50 000 piastres cette année-là. J'avais début vingtaine. Michel m'avait tout fronté l'argent. On n'avait absolument rien signé. Son compte personnel, c'est notre compte à faire. C'est vraiment tout croche. Puis ça m'a pris 4 ans à le repayer. Pendant ce temps-là, lui, puis c'est quand je travaillais chez Combustible, c'était pour m'aider à le repayer, en fait, okay. L'agence web. Pendant ce temps-là, lui partait Soumission Rénovation, qui est un marketplace comme nous, mais pour les consommateurs, pour les projets de rénovation. Mm-hmm. Puis après ça, ben moi, je venais de finir de le payer. Je disais, hey, Mitch, je pense vraiment là, que ton projet, ça s'appliquerait pour les entreprises. Puis il dit, ben parfait, Matt, je fournis la tech, je t'aide, tout ça, 50-50, ça te va-tu? Ben, let's go. Fait que je suis parti chez Combustible, on a parti, et puis tout, quoi, s'en sont.
Fait qu'en gros, t'as tout le temps été un gars qui était en affaires, puis le moment que t'es allé travailler, disons, pour une autre organisation, c'était un petit peu sur des shortcomings qu'il fallait que tu payes là, certains trucs à droite à gauche, mais c'était pas ta vision long terme là de travailler pour quelqu'un d'autre. Là. T'étais un entrepreneur à la base.
Oui, mais tu sais, je pense que moyen quand entrepreneur, tu peux également être entrepreneur à un certain niveau. Pour moi, tu sais, le web, le marketing, ça faisait énormément de sens. Puis je savais que ça allait être un investissement pour moi, peu importe ce que j'allais faire après. Fait que juste cette connaissance-là, quand je suis arrivé chez Combustible, moi, c'était pas du tout le salaire qui est important. Par contre, là, avec les chiffres que j'amenais tout ça à un moment donné, tu sais, là, je voyais, OK, tu sais, je vois où est-ce qu'on peut aller, puis j'aimerais ça faire une part plus importante. Au même moment, d'ailleurs, mini-anecdote, là, mais tu sais, je venais de finir un premier flip immobilier. J'avais fait quand même, je pense que c'était près de 200 000 que j'avais, puis j'ai demandé justement au président dans ce temps-là, hey, je veux mettre l'argent, je veux plus construire un immobilier, je mets tout l'argent dans l'agence, puis on la pousse, puis tu sais, puis il a rien voulu savoir. Puis pas longtemps après, ben j'étais parti pour partir mon projet.
On va en parler un petit peu plus tard d'ailleurs de ton background immobilier. Je voudrais revenir à B2B Côtes. Mathieu, le modèle d'affaires de B2B Côtes, c'est vraiment fascinant et intéressant. C'est un modèle qui est très, qui peut grandir excessivement rapidement. Puis pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, la manière que ça fonctionne, ben c'est pas tellement compliqué. On va mettre un projet sur la plateforme, disons qu'on veut refaire notre site web, et automatiquement B2B Quotes, avec leur intelligence artificielle qu'ils ont, vont prendre ce projet-là et vont le distribuer à leurs milliers d'agences qui sont sur leur plateforme. Et certaines de ces agences-là vont acheter le projet et par la suite vont pouvoir aller discuter à la personne qui a mis le projet sur la plateforme. Donc, un modèle où est-ce que vous, à travers ça, vous vendez le lead à des agences, qui est très intéressant. Maintenant, j'aimerais ça savoir, là, une entreprise, qui est dans l'industrie dans laquelle que tu es, peut grandir excessivement rapidement. Et toi, bon, on le voit, t'aimes ça aller vite, tu fais les choses assez rapidement. Comment tu vois ta croissance? Est-ce que tu considères que ta croissance, tu dois davantage la faire d'une manière organique ou d'un autre côté, t'essaies d'aller chercher davantage les investisseurs externes qui vont pouvoir t'aider à mettre de l'huile sur le feu?
C'est une bonne question, puis ça, c'est tout le temps un peu le dilemme entre avoir une business qui est plus lifestyle qu'une business qui est plus, tu sais, qu'on peut faire avec du capital de risque puis aller beaucoup plus rapidement. Je te dirais que nous, notre prémisse, c'était vu qu'on avait une certaine liberté financière, on s'est dit on a certains milestones qu'on aimerait atteindre avant d'aller chercher du capital de risque. On veut être sûr qu'on a un bon fit de, tu sais, un product market fit. On veut être certain qu'on a fait une preuve aussi à Toronto, qu'on n'a pas juste du succès au Québec, puis qu'on est capable de répliquer ça dans un nouveau marché. On va avoir le produit qui est à un certain niveau, une équipe à un certain niveau, avoir fait des accélérateurs, etc. Là, une fois qu'on a atteint notre chiffre qui était à d'avoir 100 000 de revenus par mois, c'est là qu'on s'est dit, OK, on veut y aller. Puis, dans le fond, à la place de se diluer tout de suite, parce qu'il y en a qui vont se diluer même avant d'avoir le product market fit, tout ça, mais ça va leur coûter, tu sais, entre 15 et 25 ou même 30 % de leur entreprise pour avoir de l'aide pour le faire. Ben nous, on a eu la chance de le faire à l'interne. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des gens clés, puis on s'est dilué à eux. Fait qu'à la place de donner 20 % pour avoir, mettons, 500 000 de capital de risque, puis au bout de 2 ans, quand tu as payé tes 5 All-Stars, ben il y a plus d'argent, puis on doit recommencer à raiser. À la place, on est allé chercher des All-Stars, on leur a donné des pourcentages, puis on leur a dit, tu sais, prenez une drop de salaire le temps qu'on réussisse à se rendre à certains milestones. Puis une fois qu'on va être rendu là, on va commencer à se payer de plus en plus. Puis là, eux, ben sont contents parce que peu importe ce qui arrive avec l'entreprise, tu sais, ils ont un gros incitatif à ce qu'on ait du succès.
Très intéressant. Donc là, bon, t'as déjà mentionné un petit peu les chiffres. Jusqu'à temps que vous ayez 100 000 $ par mois. Donc, ce que je peux comprendre, on dirait que ça a été dépassé. Félicitations d'ailleurs là-dessus. Après 3 ans d'activité, c'est une belle croissance. Là, maintenant, on est davantage dans cet environnement-là. Où est-ce que vous devez aller chercher du capital externe? C'est quoi la dynamique? Là, on enregistre le podcast 5 novembre 2020. On n'est pas sorti de la pandémie, de la COVID-19. J'ai enregistré un podcast la semaine dernière avec un entrepreneur qui me parlait comment il a été capable de lever de l'argent pendant une pandémie. Comment ça se passe présentement de ton côté là, pour aller chercher ces investisseurs externes?
Fait qu'il y a deux côtés, je dirais. Il y a le côté au niveau de l'entreprise où est-ce que ça représente des défis puis des opportunités, tu sais, le COVID puis tout ce qu'on est. Pour mettre les choses en perspective, en décembre dernier, c'est 30 000 par mois qu'on faisait, puis ce mois-ci, on devrait dépasser le 200 000. Puis tout ça, c'était pendant la pandémie, tu sais, comme tu disais, au niveau des embauches aussi. Puis ça, ce que ça nous a poussé à faire, c'est de réfléchir à notre modèle d'affaires. Comment est-ce qu'on pouvait faire les choses différemment, mieux aider les clients, plus les comprendre en profondeur. Puis comment bien s'entourer de personnes qui vont nous aider à nous amener au prochain niveau. Fait que pas juste des gens qui vont exécuter sans penser, mais qui vont vraiment c'est réfléchir à comment est-ce qu'on peut être plus efficace. Fait que ça, c'est la base, parce qu'après ça, on n'aurait pas pu rien faire d'autre. La deuxième chose, ce qui nous a aidé à nous préparer, c'est d'avoir fait les accélérateurs. Donc, on a fait Founder Fuel, qui est un accélérateur à Montréal. On a fait Next AI au niveau plus pour le produit. Puis présentement, on est dans l'accélérateur qui s'appelle DMZ de l'Université Ryerson à Toronto pour scaler les ventes. Fait que ces trois choses-là, c'est certain, ça nous a aidé en termes de network, en termes de mentorat, en termes de etc. Fait que là, ça fait depuis qu'on a fait le démo day de Founder Fuel, ça fait maintenant un mois et demi, c'est là qu'on a commencé le fundraising. Fait que tu sais, nous, on commençait un peu de zéro, c'est-à-dire que c'est notre première ronde. Quand t'es rendu à ta deuxième, troisième, t'as déjà un peu des connexions, des gens qui te suivent, etc. Fait qu'on avait, on s'est fait un funnel de comme 180 investisseurs potentiels. Puis on a tous essayé d'avoir des introductions pour pas juste rentrer par le courriel info puis se faire tourner, etc. Fait que de fil en aiguille, après ça, bon, ben là, t'as des premiers meetings un peu exploratoires. Après ça, les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes. Fait que là, on est en quatrième, justement, avec un fonds. On est en troisième avec un autre aux États-Unis. Puis, fait qu'après ça, on se fait différentes options, différents scénarios. Après ça, il y a de la dette aussi au niveau des banques qui peuvent compléter et des programmes de gouvernement. Fait qu'on est en train de jongler avec tout ça, puis on espère être capable de closer avant la fin de l'année maximum Q1.
Intéressant. Tu as mentionné Founder Fuel. J'ai fait des petites recherches là-dessus. Vous êtes sur dans cet incubateur-là. J'ai cru comprendre également qu'ils vont pouvoir investir dans certaines des entreprises qui vont faire partie de leur fonds. Comment que ça se déroule quand tu rentres dans Founder Fuel, quand tu es avec cette gang d'entrepreneurs tech-là? C'est quoi l'implication que Founder Fuel va pouvoir avoir à l'intérieur de ton organisation?
C'est une bonne question, en fait. Ben, Founder Fuel, de un, ils vont sélectionner peut-être 8 entreprises sur environ 200-300 qui vont appliquer. Fait que, puis pour eux, il y a certains critères, dont est-ce qu'ils ont une vraie chance de se rendre à une valorisation d'un milliard. T'sais. Puis ça, toutes les VC, c'est ce qu'ils font. C'est pas juste de dire, OK, est-ce qu'eux vont se rendre? Mais mettons qu'on investit dans 100 business, faut qu'il y en ait au moins une, deux, trois qui vont se rendre. Fait que si t'as même pas de chance de te rendre là, ben, t'es disqualifié avant de commencer. Fait que après ça, eux, leur rôle, c'est de bien t'aider, de préparer tout qu'est-ce qui est un peu la sauce derrière qu'on appelle un data room avant d'aller voir des investisseurs. Fait que tout qu'est-ce qui est le légal, tout qu'est-ce qui est les prévisions financières, tout qu'est-ce qui est l'équipe, tout qu'est-ce qui est le cap table ou bien le pourcentage avec les actionnaires. Fait qu'il y a beaucoup de choses à comme un peu faire le ménage. Après ça, c'est de nous présenter avec des mentors stratégiques qui sont déjà passés par où est-ce que nous on est passé. Donc on en a rencontré une cinquantaine pendant une demi-heure jusqu'à temps qu'après ça on en sélectionne 5 avec qui on a plus avancé. Fait que là-dedans par exemple, je lis la case de chez Tractic. Donc, eux, ils ont levé 50 millions, que je parle à toutes les semaines, puis qu'ils me donnent un bon coup de main, autant par rapport à l'entreprise que par rapport au fundraising, etc. Fait il y a ça, puis évidemment, après ça, il y a le démo day, où est-ce que c'est devant près de 1000 investisseurs potentiels, qu'on est sur une scène, on est au New City Gas, c'est tout en virtuel cette année, où est-ce que on a pitché, puis ça fait de la visibilité, un vidéo, etc. Puis après ça, ben c'est les intros aux investisseurs, tout ça. On a aussi beaucoup travaillé tout qu'est-ce qui est un peu le storytelling, puis de t'sais, d'expliquer t'sais, le why de qu'est-ce qu'on fait, puis de le mettre ça clair, de prévoir des objections qu'on pourrait avoir dans le futur, etc. Puis on a fait quelque chose qui était nouveau de cette année qui s'appelle du conscious leadership, qui est un peu de comprendre qu'il y a plus que juste la business, puis toi en tant qu'humain, puis avec les autres, puis de faire du bon, puis de d'être conscient de tout ça, qui a été vraiment génial. Fait que
c'est intéressant. C'est un en gros, si je comprends bien, ils vont t'amener avec un cercle de connexion excessivement dense, c'est-à-dire que tu peux avoir des investisseurs externes, tu peux avoir des gens qui vont pouvoir t'aider au niveau peut-être un petit peu plus de la consultation. Maintenant, j'ai cru comprendre qu'ils sont devenus des investisseurs dans B2B Quotes. Est-ce que ça, c'est de prime abord pour toutes les organisations qui vont rentrer dans le fond? C'est quelque chose d'externe qui ont vu un petit peu plus de potentiel avec vous puis qui ont décidé d'investir?
Non. Fait que c'est en deux étapes. Donc, les 8 entreprises qui sont sélectionnées ont tous 120 000 qui sont investis dans l'entreprise. Fait que ça, on l'a eu.
Okay.
Puis là, ensuite de ça, normalement, ils vont suivre, mettons, on fait une ronde par après, ils suivent à la hauteur de leur pourcentage, normalement. Fait que c'est, puis après, ben, ils ont tout intérêt à ce qu'on fasse des rondes subséquentes pour qu'eux aussi leur valorisation augmente, etc. Fait qu'ils nous donnent un bon coup de main pour ça. Puis toutes les capitales de risque, c'est un peu leur rôle après.
Intéressant. Est-ce que c'est la même dynamique avec les deux autres incubateurs que vous avez intégrés?
Non, NextAI, c'est différent. Donc, eux, ils investissent pas. En fait, c'est des subventions qu'on a eues, qu'ils nous ont données. Puis, c'est de l'aide. Puis, DMZ, même chose. En fait, même DMZ, il a fallu payer pour faire le programme, qui est un petit montant. Mais c'est vraiment beaucoup de ressources. Et c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui sont un peu moins peut-être coachables ou qui se retrouvent un peu moins dans des accélérateurs comme ça. On pense vraiment que DMZ, ça va être le dernier. Mais moi, ça m'a vraiment aidé à bâtir le réseau, à mettre en confiance, tout ça. Puis je pense que c'est en grande partie, c'est oui, c'était vraiment exigeant les 9 derniers mois, 3 accélérateurs, ça, je le dis comme ça, puis je trouve que ça a un peu pas de bon sens, mais on est quand même passé de 30 000 à 200 000. Fait que si on n'avait pas fait ça, peut-être que j'aurais pu y penser, mais tu sais, je me dis, si on veut se rendre où est-ce qu'on veut avec les grandes ambitions qu'on a, ben, on n'a pas le choix de faire tout ce qu'il faut pour y arriver.
Parlons un peu de ça. Donc, tu le dis, vous avez fait le démo day, tu as la chance de faire une présentation face à des investisseurs potentiels, t'essaies d'avoir des introductions avec d'autres VC américains. C'est quoi que Mathieu Plante fait depuis quelques mois à l'intérieur de B2B Course? Est-ce que tu es continuellement en rencontre avec eux? Est-ce que tu as encore un rôle spécifique dans l'opérationnel de la business? Qu'est-ce que toi, personnellement, t'as dû faire dans les dernières semaines, dans les derniers mois, en pleine pandémie? Parce qu'habituellement, corrige-moi si je me trompe, Mathieu, mais les investisseurs, là, quand ils vont investir des sommes importantes, ils veulent te rencontrer, ils veulent te voir en face à face, là. Donc, il doit quand même avoir des enjeux avec ce qui se passe, par exemple.
Pour être 100% honnête avec toi, les 6 derniers mois, tout ce que j'ai fait, c'est du fundraising. C'est la seule chose que j'ai faite de toutes mes journées. J'ai rencontré plus que 50 investisseurs, des pitchs après pitch, puis là, on apprend de tout ça. On améliore nos financials, on améliore nos contre-objections à des trucs, on améliore la business grâce à ça, au feedback constructif qu'on a aussi. Ça développe le réseau, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que ça, puis je dirais aussi de tout le temps réfléchir à 5, 6, 7 coups après pour les hires, fait que pour des hires stratégiques de personnes un peu plus seniors, puis s'assurer que ça allait bien aussi à l'interne. Mais j'ai la chance d'avoir des gens sur lesquels je peux compter. Tu sais, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, est-ce qu'on s'est dilué à l'interne? Fait que quelqu'un aux opérations, quelqu'un aux ventes, quelqu'un au niveau de la technologie, puis en plus d'avoir un grand réseau d'aide autour. Fait que sans ça, ce serait pas possible de le faire autant all-in, mais le pari de le faire autant all-in puis que je sois pas nécessairement dans la business, pendant que je fais ça, tu sais, oui, je veux dire, on a nos meetings hebdomadaires, puis je veux dire, je sais qu'est-ce qui se passe, puis j'aide, mais une fraction de ce que je faisais avant, ben c'est de qu'au lieu que ça nous prenne 6 à 9 mois à faire la ronde du début à la fin, mais que ce soit plus proche d'un 3 mois pour que justement après ça, je puisse me replonger dans le business à 100%, puis pas faire deux choses à moitié. Tu sais.
Jusqu'à temps qu'il y ait une autre ronde après.
Exactement. Puis là, dépendamment de c'est quoi le montant, ben on va avoir plus ou moins de runway, puis dépendamment aussi de à quelle vitesse les revenus augmentent, puis les marges, puis tout ça. Fait que c'est toutes des choses avec lesquelles on jongle à tous les jours. Mais c'est vraiment passionnant, puis c'est vraiment, vraiment le fun.
Ah, j'en doute pas.
Pour moi, c'est pas une corvée de faire ça. Puis tout le monde a signé pour ça dans la business, puis tout le monde est excité de ce qui se passe. Là. Donc, tu sais, je pense vraiment qu'ils sentent qu'on fait un impact, puis que ça va bien.
Ouais, et puis t'as l'air d'être excessivement transparent au niveau de tes métriques. J'imagine que c'est pas quelque chose que vous cachez à l'interne, la croissance que vous avez en termes de revenus.
Donc, non, au contraire, tout le monde le sait, puis c'est là-dessus qu'ils travaillent pour qu'on les aille. Tout le monde sait le salaire de tout le monde. Tout est ultra transparent. Là. Il y a pas de cachette, parce que des fois, je pense que ça fait juste des mauvaises perceptions. Mm-hmm. Puis c'est juste pas constructif. T'sais, je préfère qu'on soit toutes, qu'on pédale toutes à la même place, qu'on sait qu'on va avoir des augmentations avec les rentes qui arrivent, avec les milestones qu'on atteint.
Intéressant. Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoutent. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com, donc A-G-A-G-N-E, à commercial, J, le chiffre 7, média au singulier, .com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Donc, tu sais, c'est ça qui est fascinant, avoir une pool où est-ce que plusieurs de tes employés ont certains pourcentages à l'intérieur de l'organisation. Ça change complètement la dynamique de ces employés-là parce que ce ne sont plus des employés. Littéralement, c'est des partenaires d'affaires. Et là, tu te construis une équipe de plusieurs partenaires qui vont pouvoir s'occuper des tâches davantage opérationnelles, de ce que je comprends, pendant que toi, tu es à la chasse. Et là, comment que ça se passe? Là? Disons, est-ce que tu as besoin de 50 meetings avec les investisseurs? Est-ce que ça peut se faire très rapidement quand quelqu'un comprend la dynamique de B2B Court? C'est quoi les questions qui reviennent en ce moment avec les VC?
Ah, il y en a vraiment plein. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, là, puis je suis encore en train d'apprendre. Fait que je veux dire, je peux pas trop me prononcer là-dessus. Mais grosso modo, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Je pense que c'est un numbers game. T'sais, une des choses que j'ai adoré de Founder Fuel, c'est de dire, tu sais, Matt, peu importe, là, même si ça va bien avec un puis ça l'avance bien, tu sais, fais-toi un processus puis roule le, tu sais. Puis peu importe, après ça, tu pourras décider puis tu auras des options, puis de pas juste aller, tu sais, tunnel vision sur une chose, puis si ça marche pas après ça, t'es un peu bredouille puis tu dois tout recommencer de zéro. Fait que sachant ça, tu sais, même des choses qui étaient un petit peu plus long shot, fait que par exemple, tu sais, nous, c'est un seed round, donc c'est une plus petite ronde qu'on lève, mais c'est d'aller quand même voir des VC qui font du série A pour que peut-être qu'ils peuvent aller un peu plus en bas pour après ça nous suivre, ou bien juste pour avoir des rencontres exploratoires avec eux pour après. T'sais. Mais je pense que où est-ce qu'on a le plus de succès en ce moment, c'est vraiment avec des gens qui nous suivent depuis plusieurs années.
Okay.
Puis des gens qui nous connaissent. Fait que, tu sais, je pense, par exemple, avec David Dufresne de Panache, ça fait 3 ans qu'on est en communication. Ben, tu sais, lui, tout de suite, il a dit, OK, ben, moi, tu sais, Laurent, je vais pouvoir follow avec, etc., t'sais. Après ça, DMZ, toutes les introductions qu'on a eues, même Next.ai, Real Ventures, tu sais, de le faire de ton côté, toute seule, en connaissant personne, c'est beaucoup plus difficile qu'avec une introduction d'un accélérateur qui a une bonne réputation, puis qui t'aide, puis qui vouche pour toi, puis qui dit, hey, les gars sont vraiment sharp, puis ils ont de la belle traction, puis il faut absolument que vous leur parliez, etc., t'sais. Pour moi, c'est vraiment été une numbers game. Après ça, on va voir. Mais tu sais, encore une fois, là, tu sais, on a un plan, mettons, A, B, C, D. Puis je suis tout le temps en train de regarder, OK, c'est quoi EFG, d'un coup, qu'il y en a là-dedans qui partent. Après ça, ça va remonter par en haut. Fait que, on est passé à 2 poils de closer aux États-Unis. Puis ça, après 3 semaines, on était à notre 4e meeting. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais après ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'expérience en marketplace. Il y avait juste une compagnie qui était là-dedans dans leur portfolio. C'est pas nécessairement le meilleur fit pour nous. Mais quand même, on était vraiment déçus quand ça s'est pas arrivé.
Ouais, j'imagine, hein?
Ouais. En 4 meetings avec celle-là, là, on en a fait genre 25 autres en parallèle. Fait que je dis 50. Je pense qu'on en a fait bien plus que 50, en fait. Mais en tout cas. En tout cas, fait ça pour dire, tu sais, puis moi, j'ai fait 8 ans de porte-à-porte, là. Fait que, ouais. De me faire un funnel, puis de faire un numbers game, j'étais à ma place.
Mais tu plantes, tu fais de la vente, là, c'est habituellement, ça va bien, là, les deux ensemble.
Ouais. Mais après ça, tu sais, t'as fait où la vente? Parce que la vie, c'est de la vente, une business, c'est de la vente. Fait que c'est où est-ce que tu mets ton temps pour que ça vaille le plus la peine? Puis pour moi, en ce moment, c'est d'aller chercher du vraiment bon talent, puis d'aller chercher des sous. Fait que c'est là-dessus que je me concentre. Fait que, tu sais, des fois, c'est plate parce que je me dis, hey, j'aimerais ça, tu sais, pour la fin de mois, aider puis aller chercher une couple de 10 000 de plus pour l'équipe puis tout ça. En même temps, je me dis, tu sais, en faisant ça, c'est mon coup d'opportunité de l'autre côté.
Ouais.
Faut vraiment, vraiment que je me concentre là-dessus.
En ce moment, ça se passe-t-il davantage au Canada, aux États-Unis, les différents investisseurs ou les deux?
Les deux en ce moment. Fait qu'on, les deux plus au Canada. Mais après ça, la valorisation est plus intéressante aux États-Unis qu'au Canada. C'est des termes différents. On a vraiment plein de scénarios possibles en ce moment-là.
Y a-t-il une grosse distinction dans leur question, dans leur approche par rapport à la business, par rapport à la croissance, à l'industrie entre les deux pays? Ou au final, tu te rends compte que, bon, à la fin de la journée, là, une businesswoman ou un businessman, ils ont les mêmes questions, les mêmes interrogations, peu importe le pays d'où ils proviennent.
Je pense que c'est les mêmes trucs qui reviennent souvent, mais il y a quand même des nuances. Fait que, tu sais, par exemple, là, OK, bon, ta technologie, ta propriété intellectuelle, ces choses-là, c'est quelque chose qui revient. T'as combien de pourcentage de revenus récurrents, puis etc. Ça, c'est des affaires qui viennent.
Okay.
Après ça, j'ai l'impression que les Américains valorisent un petit peu plus l'attraction, le hustling, le voir grand, le rationnel, le business pur, dur, genre... versus Canada, Québec, où est-ce que c'est peut-être un petit peu plus relationnel, un peu plus le pied sur le break. Puis tu sais, encore une fois, je suis vraiment pas la meilleure personne pour parler de ça. Je te parle de mon expérience personnelle avec qu'est-ce que j'ai des six dernières semaines là, tu sais.
Mais c'est intéressant quand même. Même si c'est 6 semaines, t'as fait une 50aine de rencontres, tu commences, j'imagine, à avoir un certain pattern, revenir avec les questions, avec ce que tu dois préparer, avec un petit peu la vision que tu dois donner à cette organisation-là. Parce que c'est ça qui achète essentiellement là, eux autres. Là. C'est où est-ce que t'es capable d'amener cette business-là dans 36 mois, dans 5 ans, etc.
Ouais, exactement. Puis après ça, ben on a nos projections 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, au niveau des revenus, au niveau des marchés, au niveau des employés, au niveau du produit, au niveau de toutes les sphères d'entreprise finalement. Puis après ça, ben on se fait challenger sur absolument tout. Puis selon les personnes, c'est des trucs qui sont différents. Fait que là, après ça, ben on se montre des dossiers beaucoup plus robustes qu'ils étaient au début, parce que là, peu importe qu'est-ce qui rentre, on l'a déjà eu d'une certaine manière, puis là, ben, on est capable de mieux s'exprimer par rapport à ça. Puis tu sais, j'ai de l'aide incroyable surtout de Alex chez nous, Alexandre Vanier, qui lui est déjà passé par là, parce que avec son dernier startup qui était investisseur co-founder Plan, ils ont levé 7 millions. Ah. Fait que c'est lui qui est déjà passé par là, il a déjà eu un exit de poche et fils avant. Fait que il m'a donné énormément d'aide. Là. Sans lui, on serait clairement pas où est-ce qu'on est aujourd'hui. Là.
Ça fait combien de temps qu'il est chez vous, Alex?
Ça va bientôt faire 1 an, puis on dirait que ça fait 10. Là.
OK. Très intéressant.
Fun fact sur vas-y. Alex, on l'a engagé comme CTO. Plus j'ai rencontré au Startup Fest. Fait que Startup Fest, voilà, comme 4-5 ans. Puis j'y parle random. On se connaît pas du tout. Puis vraiment un crush de travail. Là. Après ça, 3 mois, on lunch ensemble. Pour prendre des nouvelles, on s'aide dans nos business respectifs, on se donne des trucs, tout ça. Puis à un moment donné, je cherchais un CTO, puis on était passé à 2 poils d'empoigner un vraiment bon, puis ça a pas marché. Puis là, j'ai parlé de ça, puis là, il me dit, j'ai peut-être quelqu'un chez Lightspeed pour toi, j'ai peut-être quelqu'un autre place pour toi, tout ça. Puis à la fin de la conversation, je dis, hey Alex, tu ne tenterais pas de travailler avec nous, tout ça. Puis je dis, là, je te mentirais si je te disais que ça m'était jamais passé par l'esprit.
Ah,
il peut être capable de dormir de la nuit, puis le lendemain, commencer chez nous.
T'es pas sérieux.
Fait que, ouais, ça s'est vraiment passé comme ça. Puis après ça, Alex était supposé travailler sur le produit, sur la technologie. Puis ça, il a commencé, ça fait à peu près un mois. Fait que pendant 10 mois, il a juste travaillé sur la business avec moi. Tous les accélérateurs, tout le finance, tout le légal, VC, etc. T'sais, il m'a vraiment aidé dans tout. Puis c'est là qu'il y avait le plus de valeur au stade de l'entreprise. Puis là, ben là, on a les moyens d'avoir des devs et qui peut aider, etc. Fait que, en tout cas, je pense que ça valait la peine de le mentionner. On a vraiment utilisé ses forces. Puis, il est génial, Alex. Là. On est vraiment, vraiment reconnaissant de l'avoir avec nous.
Mais c'est ta vision des ressources humaines, un peu, toi, Mathieu, de ce que je comprends. C'est que, en gros, t'engages du talent pur et dur, puis t'as pas nécessairement l'air de leur dire quoi faire. Là. Tu regardes un peu leur talent, qu'est-ce qu'ils peuvent amener à la business, puis par la suite, tu leur donnes la possibilité, la chance de dire travaille sur les endroits que je considère que tu considères qui vont amener le plus de valeur à l'organisation.
100%. Puis tu sais, pour revenir à qu'est-ce que je disais par rapport à des personnes qui font juste exécuter, puis versus qu'est-ce que nous, un peu notre modus operandi, c'est d'avoir des gens qui vont être plus intelligents que nous, puis qui vont amener les différentes sphères de business plus loin que nous on était capable de le faire, parce qu'ils ont les skills, parce qu'ils ont l'attitude, parce qu'ils ont la, tu sais, fait. C'est comme ça, je pense que la plus grande raison de notre croissance aujourd'hui, c'est ça. Parce que c'est pas Mathieu, le master brain en arrière, qui pense à tout puis qui dirige tout, là. Au contraire, c'est Mathieu qui prend des brains qui, eux, sont capables de rendre ça au prochain niveau, tu sais.
Intéressant. Là, je suis curieux. En ce moment, bon, t'as été très honnête. Tu nous as parlé un petit peu des chiffres de l'entreprise. Donc ça, c'est toujours intéressant, là, d'avoir un compte rendu clair, là, de ce qui se passe avec la situation. Où est-ce que Baby Quartz va être, selon toi, 2021, 2022? Parce que j'imagine, faut que tu fasses des projections financières là, à tes VC. Il faut que tu leur parles de la croissance que tu veux atteindre si tu veux les amener dans le bateau.
Ouais, fait que l'année dernière, c'est 450 000 qu'on a fait en termes de revenus. Cette année, ça devrait être environ 1,2. Là, il reste un mois et demi, mettons, parce que décembre, on le calcule pas au complet. Ensuite de ça, c'est 6 millions pour l'année suivante, puis 22 pour l'année suivante. Ça, c'est en considérant qu'on fait la ronde en ce moment. Mais normalement, tu sais, avec, pis c'est pas, tu vas peut-être rire encore plus, là, mais c'est des projections qui sont conservatrices.
Ah, oh, ouais. Okay.
Ouais, on est vraiment, tu sais, partout, on baisse, on se met de la marge partout. Mais, tu sais, avec les coûts d'acquisition qu'on a, avec une chose qui est le fun avec notre modèle d'affaires, c'est que, puis tu le sais, là, c'est que quand nous, les sous rentrent au départ, c'est-à-dire que la seconde qu'on parle à un client qui a un projet puis qu'on le met sur la plateforme, on est payé tout de suite. Donc, on n'attend pas un mois, trois mois, six mois, neuf mois. Donc, on est capable de recycler cet argent-là extrêmement rapidement pour la remettre après ça, puis aller en chercher plus, puis en chercher plus, puis en chercher plus. Puis après, bien sûr qu'on est allé chercher, ben ils ont des références, puis ils ont des deuxièmes projets, puis tu sais, fait que il y a moyen de...
Ça te permet d'investir plus pour acquérir un client. Quand tu le sais que tu as autant de références, tu dis, OK, le lead qui rentre chez nous, on va donner un chiffron. Mettons que je l'ai vendu puis il m'a ramené 100$. Mais là, avec toute l'expérience que je sais qu'en moyenne, 1 sur 4 me réfère. Donc là, c'est plus 100$, c'est 125$ qui vaut.
Exactement.
Il y a ça qui se passe.
Fait que le lifetime value puis le coût d'acquisition, c'est quelque chose qu'on regarde de très près pour tous nos canaux puis tout ça. Puis c'est ce qui nous permet de... Puis c'est ce qu'on présente aussi au capital de risque, tu sais.
Ce 6 millions, ce 22 millions-là, ça va pas se passer juste au Québec. Là, j'imagine que tu dois t'entourer de partenaires, des gens, comme tu le disais, qui l'ont déjà fait avant toi, que ça soit, je sais pas, aux États-Unis, en Europe, dans le Rock, le reste du Canada.
Ouais, exactement. Pour le 6 millions, en fait, c'est principalement Canada avec une preuve de concept aux États-Unis. Fait que preuve de concept à Chicago qu'on débute dans les prochains mois. Puis sinon, on est déjà à Toronto. On a des gens qui travaillent de là-bas à temps plein. Puis nos fournisseurs sont tous canadiens au moment où on se parle. On a plus de 2500 là, qualifiés sur la plateforme. Fait que aujourd'hui, la majorité de nos revenus sont au Québec. On vient de commencer Toronto, ça fait moins de 6 mois. On a peut-être un 15% de revenus qui vient de là. Fait qu'on est en train de le grossir. Puis notre objectif, c'est d'aller prendre certaines villes clés au Canada pour ensuite de ça pouvoir faire du marketing pan-canadien. Puis c'est un peu la stratégie qu'on veut faire aux États-Unis aussi. Là, je dis ça, mais on a fait tellement de pivots, puis on a changé tellement de trucs avec des fois des affaires qui arrivent que aujourd'hui, le 5 novembre 2020, c'est ce que Mathieu pense, mais on s'en reparle la semaine prochaine. Peut-être ouais. Que ça va changer un peu.
Ben, c'est, tu sais, il y a peut-être un investisseur qui va rentrer, qui va peut-être amener deux, trois bonnes idées aussi. Donc, non, c'est un peu l'idée même d'une startup comme B2B Quartz. C'est fait pour bouger, changer, avoir cette flexibilité-là qui te donne la chance de, okay, d'avoir une idée le lundi matin puis de l'exécuter le mardi d'après, tu sais. C'est un peu ça qui est intéressant dans ce que vous faites, là.
Ouais, puis des fois c'est vraiment difficile. Puis ça, c'est dans le casting des nouvelles personnes qu'on engage, puis tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis tu sais, d'être flexible par rapport au changement, puis au compte de embrace le changement, puis de comment est-ce qu'on peut tout le temps s'améliorer. Puis je pense que c'est extrêmement important comme tu le dis. Puis des fois, tu sais, comme tu parlais de croissance, ben tu sais, il y a le géographique. Après ça, il y a par les comptes qu'on a déjà. Il y a en ajoutant d'autres services. Il y a avec des langues, il y a avec, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Fait que c'est un beau problème d'avoir beaucoup, beaucoup d'opportunités. Par contre, à un moment donné, quand t'essaies de tout faire en même temps, il y a rien qui se fait. Fait que c'est tout le temps une game de comment est-ce qu'on priorise, on priorise, on priorise, on priorise, tout en retestant d'autres affaires qui nous donnent d'autres possibilités. Fait que, en tout cas, c'est pour ça qu'on a autant de fun puis qu'on est passionné de même.
Parlant de fun, je pense que tu as du fun également dans d'autres sphères que B2B Quotes. J'ai cru comprendre que tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, là, un background en immobilier. Tu as l'air d'avoir certains projets. Parle-nous donc un petit peu de ça, là. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis quelques mois, quelques années? C'est quoi ton implication dans le volet immobilier, là?
C'est un projet en fait que j'ai parti avec ma femme au départ, puis certains associés dans certains projets. On a des immeubles de locatifs à Montréal. Fait que des appartements locatifs à Montréal. Fait que au départ, on avait commencé avec un immeuble, puis on a optimisé l'immeuble, si on veut, en augmentant les revenus après rénovation, etc., pour après ça le refinancer et de fil en aiguille, ben faire un peu une boule de neige. Après quelques années, on a toujours peut-être une cinquantaine d'appartements.
Quand même.
Mais aujourd'hui, à Mané, c'est un choix de faire, OK, est-ce que je suis all-in dans B2B ou je me mets all-in dans l'immobilier? Puis j'ai choisi de le faire avec la business web. Fait qu'aujourd'hui, ça me prend même pas une heure par semaine. Il y a ma femme qui s'occupe de la comptabilité, etc. Puis le reste est en gestion. Fait que, tu sais, ça fait des petits, ça capitalise. Puis un jour, on verra qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais en attendant, ça me permet d'être vraiment laser focus avec B2B.
Oui, c'est ça. C'est une valeur qui va grandir à travers le temps. Mais c'est quasiment plus un fun de fin de semaine là, de t'occuper de tout ça, là.
Ouais, ben au début c'était pas vraiment ça là, c'était vraiment exigeant, puis tu sais on a quand même créé beaucoup de valeur pour pouvoir en acheter d'autres. Là, c'est pas comme si j'avais, mettons, vendu une business, puis j'avais 2 millions à investir, puis tu sais j'ai commencé avec zéro là. Fait que après ça fallait créer de la valeur, puis en racheter, puis être un peu créatif dans tout ça. Puis à un moment donné aussi, on avait tellement acheté beaucoup en peu de temps que là les banques, la SCHL, tout ça était le bon là, monsieur Plante, calmez-vous un peu là, ça en fait pas mal. On aimerait ça que de voir des revenus qui sont stabilisés à un certain moment.
Wow.
Fait que là quand c'est rendu que tu es à compte courant avec le financement, ben tu sais c'était comme aussi un bon timing pour dire regarde, on va prendre un break d'une couple d'années, puis après ça ben ça va être plus facile. Fait que pourquoi se battre à compte courant quand il y a d'autres projets qui B2B là, ça je pense qu'il y a aucun autre business que je pourrais faire qui aurait autant d'impact mettons dans les prochaines années là.
OK. Fait que ton focus est vraiment sur B2B Quotes. C'est bien et c'est ça qu'on a besoin, du focus. Avant de te laisser filer, Matt, j'aurais des petites questions personnelles que j'aime poser aux gens qui viennent sur Hypercroissance. T'as l'air d'être un amoureux de la business. T'as eu plusieurs projets, t'as eu, comme on vient de le mentionner, tu fais de l'immobilier, tu fais B2B Quotes, tu as eu d'autres projets avant ça. Est-ce que tu es un lecteur? Est-ce que tu vas rechercher des ressources business qui vont t'aider à devenir un meilleur homme d'affaires dans ce que tu fais au jour le jour?
Oui et non. Fait que je mets un petit bémol. J'ai de 15 ans à 25 ans, je devais lire un livre ou deux par semaine.
Oh wow.
Puis depuis ce temps-là, mettons récemment, j'ai lu Venture Deals puis d'autres trucs. Fait qu'aujourd'hui, la lecture, c'est un peu plus, pour me faire déconnecter. Que business, quoi que j'aime toujours ça. Mais j'ai quand même quelques livres préférés, si on veut. Puis,
Venture Deals, c'est le livre que suis en train de lire présentement.
Mon petit dernier, ça, vu que je suis là-dedans.
Il peut pas avoir meilleur que ça pour ce que tu es en train de faire. Là. T'as tout ce qui est
C'est une petite bible.
Ça n'a aucun sens comment ce livre-là est bon. Je voulais davantage me faire une tête par rapport à tout ça, le volet d'investissement, cap table, convertible debt. T'as tout là-dedans. Là. C'est assez exceptionnel.
Ouais, puis le gars, il est passé des deux côtés, puis il a fait ça pendant vraiment longtemps. Fait que, tu sais, oui, mais après ça, tu sais, moi, j'ai un peu un tempérament de quand c'est juste trop théorique, j'ai vraiment de la difficulté, il faut que je le mette en pratique puis que je le fasse. Fait que moi, d'avoir des gens qui l'ont déjà fait, des mentors, puis de pouvoir bouncer ça avec des vraies personnes, c'est, pour moi, c'est plus ce que j'apprécie. Mais sinon, tu sais, des livres, c'est vraiment ce qui m'a ouvert à l'entrepreneuriat, à la business. C'est génial la lecture, c'est juste que là, je l'ai un peu moins de ces temps-ci, en toute transparence.
Écoutes-tu des podcasts? Des podcasts à faire?
Non plus.
Non plus?
Je suis vraiment pas bon, hein? Hey, puis je t'explique pourquoi.
Vas-y.
Ben, pourquoi? C'est pas une bonne raison, là. Puis maintenant, en plus, on prend même plus la voiture. Mais mes deux voitures ont pas de Bluetooth. Fait que j'ai une voiture d'hiver, une voiture d'été. Les deux sont trop vieilles pour avoir des Bluetooth. Fait que là, j'en ai une nouvelle demain, en fait. Fait que là, il va y avoir un Bluetooth, celle-là. Fait que là, on va... je vais pouvoir commencer à écouter des podcasts. Mais là, enfin, je prends même plus mon auto. Fait que, mais d'ailleurs, tu pourras me donner peut-être une liste de podcasts que je devrais faire. Parce que, tu sais, des fois, mettons, en tout cas, il y a plusieurs choses que je fais qui sont un peu, tu sais, quand je fais de la bouffe ou la vaisselle ou n'importe quoi, tu sais, juste de tout le temps voir ça, je pense que ça fait du sens.
Oh, effectivement, que des podcasts, quand tu fais une autre activité, il n'y a rien de mieux, hein, parce que tu peux faire deux choses en même temps comparativement à un livre, une vidéo, où est-ce qu'il faut que tu sois 100% concentré. C'est ça l'avantage et la beauté des podcasts. Avant de te laisser filer, j'ai une petite question. Mentorat. T'as l'air d'avoir des gens qui te supportent. Y a-tu quelqu'un qui te suit depuis longtemps qui t'a aidé à t'amener où est-ce que t'es aujourd'hui, ou c'est davantage plusieurs personnes qui graffitent autour de toi, surtout au cours des dernières semaines, là, qui t'ont aidé à t'améliorer au niveau affaires?
C'est vraiment plusieurs. Puis il y en a vraiment beaucoup. Genre, on ferait une liste ensemble, là, je pense qu'il y en aurait peut-être 100.
OK. Fait que c'est important pour toi de t'entourer des gens comme ça, là.
Vraiment, vraiment important. Okay. Ouais. Tu sais, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce, j'ai fait 3 accélérateurs. Donc, pour moi, mon réseau, des gens qui sont déjà passés par là, comme je dis, moi, c'est comme ça que j'apprends. Fait que c'est le temps que toi, tu mets en podcast, mettons, moi, je le mets en... Non, mais c'est quand même vrai, tu sais, dans le sens où est-ce que c'est pas comme si je fais rien par rapport à ça. Je le fais juste un peu, peut-être différemment. Puis, mec, t'as des enfants, tu vas comprendre. Là. J'en ai un deuxième qui arrive.
Ben oui, c'est ça. C'est cette semaine là que tu me disais, là.
Ouais. Ma femme est à terme, là. Fait que ça peut être aujourd'hui comme ça peut être dans 2 semaines.
Wow. En tout cas, tu fais beaucoup de choses en même temps, Mathieu. Papa, B2B Quotes, on fait de l'immobilier. Félicitations pour tous ces beaux projets-là. Je trouve ça assez exceptionnel, la croissance que vous avez présentement pour B2B Quotes. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui pourraient peut-être avoir besoin de vos services. Comment qu'on peut en apprendre plus, là, sur B2B Quotes?
B2Bquotes.com, je vous invite à aller là, puis c'est assez simple, c'est absolument gratuit, il n'y a pas d'engagement pour les entreprises qui déposent leurs projets, puis on vous aide vraiment à avoir le partenaire idéal pour vous aider, pour que vous puissiez avoir un G7 dans votre vie, là, comme il nous aide avec nos campagnes Facebook, puis ça d'ailleurs, j'aimerais s'en parler rapidement, si pas d'objection, mais moi puis Antoine, on a commencé à travailler, puis ça a pris à peu près un an avant que ça soit rentable, puis c'était difficile, puis c'était B2B sur Facebook, puis Antoine n'y a jamais lâché, puis moi non plus dans un sens. Mm-hmm. Puis finalement, après ça, ça finit par fonctionner, puis là, c'est dans les, je sais pas, c'est du 20 000 par mois peut-être, je sais pas combien.
Ça monte, là, ça monte bien, puis non, mais c'est ça la beauté, ou plutôt la difficulté de même des fois de la pub Facebook ou de n'importe quel média payant. T'investis au départ, mais le revenu ne rentre pas dès le départ. Donc, combien de temps que ça va te prendre? Ouais, combien de temps que t'es prêt à donner avant d'atteindre cette rentabilité-là? Puis bon, finalement,
tu as trouvé. Mais t'as su beaucoup de clients patients comme ça qui attendent un an avant que ça marche? C'est quand même beaucoup d'attendre un an, ou peut-être un petit peu moins, mais...
Hey, je te dirais que de plus en plus que la compétition augmente, de gens qui connaissent un peu plus la publicité Facebook, de moins en moins que la patience est élevée, tu sais. Donc, il faut que tu trouves des processus que rapidement, en l'espace de quelques semaines, tu t'arrives avec des résultats, parce que non, il y a pas beaucoup de gens qui vont donner un an à une plateforme, là.
Parce que en fait, la première fois qu'on s'était rencontrés, j'étais venu dans ton bureau, puis j'avais marqué ça c'est une bonne anecdote. J'avais marqué sur ton bureau avec, il y avait des crayons marqueurs. Puis il y avait des belles vitres, là, qu'on pouvait l'effacer, puis tout ça. Puis là, j'ai marqué comme objectif 1 million de ad spend par mois pour B2B Quotes. Puis là, pour m'apercevoir après ça, Antoine qui me dit Matt, la vitre, là, qu'est-ce qu'on peut effacer, c'est l'autre. Celle-là est indélébile. On peut pas l'enlever, ça reste là.
Ah, puis là, ça reste encore. Mais là, on a changé de bureau, mais pendant je sais pas combien de temps, la personne qui était face à cette vitre-là voyait le 1 million par mois.
1 million B2B Quotes.
Fait que tu vois, ça a dû être ça qui a amené la rentabilité de vos campagnes qui est passée de gauche à droite. Là, c'est de le voir à tous les jours, là, on a été capable de trouver les bonnes manières de le faire.
Je pourrais pas dire. Puis juste pour terminer, là, je veux pas avoir cette vieille face-là pour rien. Si tu peux peut-être juste partager notre lien Movember, on fait le Movember B2B Quotes pour prendre des fonds, puis dans le fond aussi pour l'awareness par rapport au cancer de la prostate, etc. Fait que je vous invite à donner généreusement.
Bon, on a une belle audience sur Hypercroissance, donc on mettra les liens dans les notes de l'épisode, puis je pense que c'est une belle cause, fait que ça va nous faire un plaisir de vous aider là-dessus. Mathieu, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est fascinant et toujours très intéressant de parler avec toi. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Comme vous avez pu l'entendre durant l'épisode, Mathieu est un entrepreneur qui va excessivement vite. Faire 7 fois son chiffre d'affaires en une année et avoir l'ambition de répéter l'exploit encore lors des prochaines années témoigne d'une confiance exceptionnelle en ses ambitions. Je recommande également aux gens qui nous écoutent d'utiliser la plateforme B2B Quotes si vous cherchez un fournisseur qualifié pour vos besoins de marketing web. Leur service est excessivement complet et efficace. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@g7media.com. Donc, A-G-A-G-N-E, à commercial, J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.